Campagne, bonjour. Les Carnets dans la Nièvre, première étape, Millet, 450 habitants aux confins du département et à deux pas de la Saône-et-Loire, et siège d'un festival musical inattendu à cet endroit, qui atteindra cet été sa 18e édition sous le nom de Le Vent sur l'Arbre, joli. Pas moins de 10 concerts de musique classique et contemporaine sont annoncés, avec quelques têtes d'affiche comme Henri Desmarquettes, Gérard Cossé, Trio Vanderer. 5 jours de concerts sous les voûtes de l'église romane de la commune, mais aussi des concertinos de midi, une balade festivalière avec deux ailes, donc elle sera essentiellement musicale, pas besoin de prendre des chaussures de randonnée. Du cinéma des surprises, selon les organisateurs, le 18e Vent sur l'Arbre, donc c'est du 3 au 7 août. Levent-sur-l'Arbre.fr. Et puis, mieux encore, à quelques kilomètres de là, la commune de La Roche-Millet, cette fois 250 habitants, et son association Jazz School à La Roche, qui devance le voisin en programmant un festival jazz en village entre le 29 mars et le 26 avril, puis un second temps avec le festival Jazz en Morvan, du 30 mai au 2 juin, décidément. Deuxième étape, Clamcy, où nous attend Bernard Claire, fondateur et président de l'association Flotte Escale, pour une grande page d'histoire et un projet d'envergure, comme vous allez pouvoir en juger. Puis enfin, troisième point de chute, Corbigny, pour la nouvelle ressourcerie de la Fabricole, avec Patrick Lapostole.
France Inter. Carnet de campagne. Philippe Bertrand.
Bernard Claire, bonjour.
Bonjour.
Bernard, vous êtes président, membre fondateur de l'association Flotte Escale. Quelle belle idée en 2015, avec la volonté de faire renaître le train de bois. Le train de bois, il faut savoir que pendant nombreux siècles, c'est la forêt nivernaise qui chauffait les Parisiens.
Oui, elle a chauffé Paris entre 1547 et 1877. Les volumes étaient quand même assez extraordinaires. En 1804, on a fait flotter 3535 trains de bois qui représentaient quasiment 700 000 austères.
Mmh. Essayer de réhabiliter le train de bois, c'est une utopie ou il y a un enjeu économique ?
Il y a un enjeu économique. On est dans une région qui est quelque peu défavorisée. Dans les années 70, la ville faisait encore 6 000 personnes. Elle en fait 3700. Parce que pendant des années, la ville a été drainée par l'industrie chimique du bois. Et quand le pétrole est arrivé de façon plus fine dans nos territoires, eh bien, l'usine s'est convertie. Elle est passée de 1200 personnes à maintenant 80 personnes. Mais cette usine, la SPCC, a existé parce que le bois existait dans les forêts du Morvan. Donc, les forêts du Morvan ont produit du bois, je vous l'ai dit, pour alimenter Paris en bois. Mmh. Et quand ça s'arrêtait en 1877, ben, ce bois, il existait toujours. Donc, on a continué à le faire flotter sur Clamcy. Et à Clamcy, une industrie de carbonisation du bois s'était développée.
Ouais. Alors, le train de bois, Bernard, c'était un radeau, en fait, mais très long, 72 mètres.
Oui, c'est ça, un train de bois, ça fait 4,50 m de large, 72 m de long et une épaisseur de l'ordre de 60 cm. Ça représente 200 stères de bois qui étaient transportés par deux personnes uniquement.
Ah oui, uniquement. Et alors, vous avez reconstruit cette embarcation et vous l'avez amenée à Paris en 2015.
Oui, on a reproduit, on va dire, une réplique, parce que les règles de navigation actuelles font qu'on ne pourrait pas refabriquer un train de bois tel qu'il existait à l'époque. Mais nous, notre représentation correspond à une maquette qui existe à Clamcy, dans une salle du musée. Une maquette qui date de 1860, donc en plein dans l'épisode flottage du bois en direction de Paris.
Mmh. Votre projet, c'est un pôle touristique autour du flottage et vous vous inspirez de l'aventure de Guédelon pour faire un équivalent au niveau du flottage du bois.
Tout à fait. L'idée, c'est d'immerger le touriste qui vient nous voir, de l'immerger dans une ambiance flottage. On leur montrera et on leur apprendra à fabriquer ce que nous on appelle une branche, un coupon, une pare, un train de bois. Ils pourront le voir flotter en vrai sur la rivière. On leur fera faire du flottage à bûche perdue. On va essayer de les immerger complètement dans cette notion de flottage du bois. Mais c'est pas suffisant parce qu'en pareil cas, les gens viennent une petite demi-journée et s'en vont. On n'arrivera pas à créer quelque chose de suffisamment important.
Oui.
Donc ce qu'on voudrait, le doubler avec des activités nature, puisque la Nièvre est réputée pour ses activités nature, donc on voudrait les mettre en valeur pour que le touriste vienne et se sente bien et découvre qu'une région qui est un petit peu délaissée a d'énormes atouts.
Et vous préparez une étude de marché ?
Oui, on a une étude de marché qui est en cours, qui a été mise en place par la communauté de communes des Onivernais-Vaudionne pour essayer de déterminer si ce que nous proposons correspond à un besoin ou si nous sommes complètement à côté, parce qu'on compte quand même engager de l'argent public. Mmh. On ne voudrait pas que cet argent public soit perdu. Mmh.
Surtout jeter l'argent à l'eau, c'est dommage.
Ça serait dommage, oui. Ça serait comme les trains de bois, ça partirait en fumée.
Ouais. Sincèrement, le projet est beau. Je pense que vous avez déjà des réactions. Vous avez estimé l'adhésion de la population à ce type de projet.
Oui, nous, on sait qu'en local, ça marche. On a approché, en plus de ça, des industriels autant du bois que de l'eau. On a approché des spécialistes de toutes les activités nature. Tous pensent que ça peut marcher, ça doit marcher.
Bah, vous avez de grandes entreprises du bois. Chez vous en particulier, vous avez le groupe Charlois. Vous pourriez faire appel à ses services.
Tout à fait. Nous avons été les voir et ils sont intéressés.
Ah, voilà, la bonne nouvelle. Alors, si vous voulez suivre l'aventure de l'association Flotte Escale, le site c'est flotteescale.org et vous allez retrouver cette adresse à nos pages d'émission en espérant que dans quelques temps, on vous annoncera l'ouverture du pôle touristique autour du flottage du bois à proximité de Lyon, dans le Haut-Nivernais et le long du canal du Nivernais. Voilà une belle idée. Merci Bernard.
Merci, au revoir.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand, sur France Inter.
À l'époque de sa création, on parlait de l'enfance malheureuse ou en danger moral. C'était en mars 1944, année de fondation de l'association en faveur des enfants malheureux. Première pierre, l'ouverture d'une maison pour accueillir des enfants maltraités. En 1950, l'association adhère au mouvement national des sauvegardes avant de prendre pour nom définitif la sauvegarde 58. Des instituts vont voir le jour par la suite. Instituts médico-éducatifs, instituts de rééducation, puis des centres d'aide par le travail, qu'on appelle maintenant ESAT, qui vont s'établir dans le département. Aujourd'hui, la sauvegarde 58, qui se destine aux personnes dites en situation de vulnérabilité, principalement des enfants et des adultes handicapés physiques ou psychiques, compte, tenez-vous bien, 23 établissements et services dans le département de la Nièvre, accueille 2500 personnes vulnérables par an, emploie 244 travailleurs handicapés avec un encadrement de 414 salariés pour un budget de 27 millions d'euros. Les domaines d'activité qui consolident cette grande association sont également le suivi, l'aide, l'accompagnement de ces personnes tout au long de leur vie et la mise en œuvre aussi de mesures de protection judiciaire. Bref, un ensemble indispensable et toujours présent depuis 75 ans, c'est bien signalé. Sauvegarde58.org, bravo, merci à eux. Patrick Lapostole, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Patrick, vous dirigez l'association pour l'insertion et l'accompagnement social, la PIAS.
Oui, la PIAS.
On va parler de Corbigny et puis un petit mot sur Jean Bochco, notre ami regretté, créateur du théâtre Éprouvette, du camion d'alimentation, général culturel, poète du département, créateur d'initiatives ici et là, des 80 ans de ma mère, des expos photos avec des personnes âgées. Il a tellement fait de choses dans ce département. À Corbigny, depuis Corbigny, l'abbaye qu'on appelle l'abbaye du Jouir, c'était son vrai nom?
Alors non, c'est Jean Bochco qui avait donné ce nom-là. Nous, on l'avait appelé, je dis nous, parce que j'ai fait partie de cette aventure dans les années, au début des années 2000. On a créé un centre culturel sur cette abbaye. On a fait venir des compagnies en résidence et la première qui est venue, c'était Jean Bochco. Mmh. Et nous, on l'avait nommé l'abbaye Cité. Et lui, toujours avec son côté un petit peu original et parfois provoquant, l'avait appelé l'abbaye du Jouir. Et c'était une belle aventure avec Jean parce que c'était un homme merveilleux. Original, pas toujours facile, mais tellement créatif. Il a beaucoup fait pour le territoire. Il était brasseur d'idées au niveau du social. Il faisait rencontrer les personnes. Et c'est ce qui était merveilleux. Mmh. Ouais, vraiment une belle personne que nous regrettons amèrement.
Mmh. Alors, vous présentez la PIAS, l'association, sous une version modeste, quand même 90 salariés, mais vous couvrez l'ensemble du département de la Nièvre.
Oui, effectivement, nous avons des services sur Nevers, sur Marigny-sur-Yonne, qui est un petit village à 4 km de Corbigny. Et puis sur Corbigny, on est dans le domaine de l'insertion, de l'hébergement, également de personnes en situation de handicap mental et psychique. Et puis on les accompagne à devenir des citoyens à part entière et puis à vivre dans la cité, en appartement, avec ou sans travail, en milieu rural ou en milieu urbain.
La difficulté, Patrick, c'est que les degrés de handicap sont différents et certaines personnes sont bien plus empêchées pour être politiquement correct que d'autres.
Oui, oui, absolument. Quand on souffre d'une déficience mentale ou d'une psychose, l'empêchement est réel, ce qui fait qu'on a besoin d'un accompagnement humain pour arriver, oui, à faire de la rencontre, à vivre si possible positivement, et c'est pas simple. D'autant dans nos territoires ruraux où effectivement la raréfaction des services publics ne vient pas faciliter les choses, ne serait-ce qu'en termes de mobilité.
Mmh. Et donc vous créez votre propre outil d'insertion avec la Fabricole à Corbigny.
Oui. On avait créé il y a quelques années une ferme pédagogique, toujours en lien entre l'intérieur et l'extérieur. Et puis là, on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on s'empare de la question environnementale. Et on a eu l'idée de réfléchir à un espace qui pourrait associer l'environnement, la gestion des déchets, donc une démarche réellement éco-responsable, un lieu de rencontre pour créer du lien social encore un peu plus, et puis un lieu d'insertion. Et c'est ce que l'on voudrait vraiment arriver à faire de ce lieu un lieu d'insertion. Avec l'idée peut-être de le transformer et d'avoir quelques places en chantier d'insertion pour pouvoir recevoir des bénéficiaires du RSA, des demandeurs d'emploi, et que l'activité in situ aille un peu plus loin que l'occupationnel, mais soit vraiment un levier de réinsertion et sociale et professionnelle.
Donc c'est une ressourcerie, la Fabricole,
oui.
Qui va collecter, réhabiliter, revendre. Le modèle auquel on pense à chaque fois, c'est le modèle Emmaüs.
Ben oui, sur le territoire national, c'est effectivement eux qui ont été précurseurs. Alors nous, on va un peu plus loin. Il y a effectivement cette idée de récupérer, de redonner vie et de revendre pour des prix modiques. Donc on ressource les objets. On a ciblé 7 objets à ressourcer. Et puis aussi en faire un lieu de rencontre. Mmh. Et ça, on insiste énormément là-dessus.
Mmh.
Ouais,
mmh.
Tout à fait.
Et puis avec la bonne nouvelle aussi des accords passés avec la communauté de communes Tannay, oui. Brinon-Corbigny, en particulier avec les déchetteries, parce qu'on a eu d'autres exemples, entre autres de lieux de réhabilitation, par exemple du vélo, où les déchetteries refusaient de travailler avec les ateliers de réparation des vélos. Et on trouvait ça un petit peu insensé en disant non, c'est pas à nous de vous fournir de la matière. Bon, en tout cas là, c'est pas le cas. L'ouverture est prévue quand ?
Alors, nous ouvrons déjà un jour ou deux par semaine, et disons que à la fin du printemps, tout début de l'été, on devrait inaugurer ce bel espace. Et faire en sorte que ça soit ouvert tous les jours et puis que l'on puisse continuer à accentuer aussi cette belle aventure de partenariat. Mmh. L'intérêt, c'est effectivement de mixer les publics, de faire de la rencontre et puis aussi de faire du développement de territoire. Mmh. C'est vraiment ce qui nous anime.
Merci Patrick. Le lien avec la Piasse à nos pages d'émission et merci pour le rappel à belle mémoire de Jean. À bientôt.
Merci Philippe. Au revoir.
Le café Bonne Nouvelle de Chambéry reprend ses animations ce soir de 19h à 21h à la Maison des Associations rue Saint-François de Sales à Chambéry. Un nouveau rendez-vous. Alors la première partie, c'est toujours un lâcher, comme ils disent là-bas, de bonnes nouvelles en vrac, pour selon l'inspiration de chacun. Puis la deuxième partie, des rencontres avec des personnes qui témoignent. Le programme de ce soir 19h, les tiers-lieux, espaces de partage et d'innovation, c'est à Chambéry. Et puis je rappelle que la semaine prochaine, nous serons dans le Cher avant d'aborder la Manche, l'Orne. Puis début mars, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Merci pour vos courriers dans la Nièvre, Luzy. Spécial jeune, c'est le jeu des 1000 euros. Nicolas Stoufflet.